Maintenant, pour ce temps de la parole, on va ouvrir à nouveau les Actes des Apôtres au chapitre 2, s'il vous plaît. Le PowerPoint va s'afficher. Il nous reste deux messages encore aujourd'hui et la semaine prochaine sur la thématique de l'Église. Non pas qu'on ait jamais, tout dit, il y a toujours des choses à compléter, mais je pense que nous aurons fait le tour de cette question essentielle qu'est l'Église, être une Église selon le cœur de Dieu. Et puis là, nous étions arrivés dans le livre des Actes. Bien sûr, les PowerPoints sont à votre disposition, les messages sont en ligne. La dernière fois, nous avons considéré l'Église centrée sur la croix, c'est la fraction du pain. Et on va continuer sur la fraction du pain aujourd'hui. Je vais apporter une pensée complémentaire, mais on va relire d'abord deux, trois textes. Actes chapitre 2, versets 41 et 42, puisque nous avons dans ce texte, qui est le démarrage de l'Église primitive, je le rappelle, l'Église primitive qui est le seul modèle d'Église valable en termes de structure spirituelle. Après, les œuvres, les organisations des unes des autres, les formes, ça c'est autre chose, mais sur le fond, en termes de spirituel, l'Église primitive est le seul modèle valable sur lequel nous devons nous aligner. Ceux qui acceptèrent, verset 41, sa parole, furent baptisés, c'est juste après la Pentecôte, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils, c'est-à-dire tous ces nouveaux rachetés qui constituent maintenant l'Église sur Jérusalem, ils persévéraient dans, un, l'enseignement des apôtres, ce qui, on l'a vu, nous ramène directement à l'autorité de la parole dans nos vies, deux, la communion fraternelle, trois, la fraction du pain, quatre, dans les prières, amen. Nous avons ici quatre piliers, quatre piliers qui sont la garantie d'une Église qui soit solide. Ce sont aussi quatre indicateurs d'une Église qui est en bonne santé spirituelle. On a donc considéré la communion fraternelle et l'autorité de la parole. On a commencé un petit peu à parler de la fraction du pain, mais avant de résumer rapidement ce qu'on a vu la dernière fois, je voudrais que l'on relise aussi dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, parce que ça va dans le sens de la pensée prophétique que nous avons entendue tout à l'heure. Colossiens, chapitre 2, les versets 14 et 15. Verset 14, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit cet acte de condamnation, il l'a détruit en le clouant à la croix. Et il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Nous avons vu la dernière fois que ce troisième pilier désigne la scène, la fraction du pain. Ce n'est pas un rituel évangélique, évidemment, ce n'est pas une habitude pour une habitude. C'est réellement ici la volonté de Jésus, lorsque ça nous a été rappelé tout à l'heure. Il a institué lui-même ce moment parce qu'il voulait que, non pas qu'on pratique quelque chose, mais que ce mémorial nous ramène à la réalité spirituelle de la croix. Et on constate que les apôtres, dans leur prédication, et l'Église primitive étaient centrés sur la croix. La croix n'était pas un plus dans leur vie, la croix était réellement leur vie. C'était réellement le centre de leur pensée. L'apôtre Paul dit bien aux Corinthiens, « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ sa nature, mais il précise Jésus-Christ crucifié. Je ne veux pas savoir autre chose que la nature de Jésus et l'œuvre de Jésus au milieu de vous et en vous. L'Église primitive était centrée sur la croix. Et nous nous rappelons au travers de ce fruit de la vigne, on l'a commémoré au travers du pain, nous nous rappelons le sacrifice unique, volontaire et suffisant de Jésus pour pardonner, pour effacer le péché. Nous nous sommes souvenus du prix payé, de ce que lui a pris l'injustice. Il a accepté l'injustice suprême pour que la dette de nos péchés, comme il a été dit tout à l'heure, ne soit pas couverte. Ça, c'était dans l'ancienne alliance, mais que nos péchés soient effacés. Ils n'existent plus. C'est comme si nous n'avions jamais péché. Il ne subsiste plus rien. Le sang de Jésus a tout effacé. Et cette scène exprime, elle nous ramène sans cesse à la réalité de la croix, parce que cette scène, ce pain qui est brisé, qui est rompu, me rappelle le corps de Jésus qui a été déchiré, qui a été labouré, non pas par le fouet romain, mais qui a été labouré par le fouet de mes péchés. Et son corps a été déchiré, brisé de douleur à cause de mes péchés. Et ce fruit de la vigne, évidemment, vous l'avez compris, nous rappelle son sang pur, innocent, versé volontairement, librement, pour chacun d'entre nous, parce que c'était le seul sang pur et innocent, le sang pur, qui avait cette capacité d'effacer nos péchés. C'est ce que nous avons lu, c'est l'œuvre de mort et de résurrection de Jésus. Cette œuvre est toute puissante, Paul dit aux Colossiens, pour effacer. Amen. Effacer. Il ne subsiste plus rien. Si tu as demandé pardon, si tu as confessé à Jésus, si tu lui as dit, si tu lui as confessé librement de tout ton cœur, ce que tu as confessé au Seigneur n'est pas à moitié pardonné maintenant et pardonné sous condition avec un bracelet électronique d'ici 3 à 6 mois en fonction d'eux. Ce que tu as confessé au Seigneur est effacé à l'instant où tu lui confesses. La question, c'est lui, as-tu réellement confessé ce que tu avais à lui confesser? Mais à partir du moment où c'est confessé, c'est effacé, parce que la puissance du sang de Jésus efface la totalité de la dette et efface instantanément la dette. Et il faut réellement, comme on l'a entendu tout à l'heure, il faut absolument le saisir par la foi. C'est par la foi, la parole de Dieu le dit, je le crois. Je ne méritais rien, il n'y avait rien en moi, il n'y a rien dans moi, de moi dans tout cela, il n'y a rien de vous. Il m'a arraché à la puissance du péché, des ténèbres et de la mort. Et comme nous l'avons vu dans Colossiens 2,15, cette victoire de Jésus, il a triomphé des dominations, des autorités. Il les a ridiculisées, il les a livrées publiquement en spectacle. Certes, d'un point de vue humain, devant les yeux de chair de chacun, ça semblait être la plus grande défaite de tous les temps. Ce Jésus qui était crucifié, les disciples étaient consternés, tous ses proches, tout le monde, c'était la débandade totale, plus personne ne comprendra rien. Il faudra bien des jours et des jours et des jours pour qu'ils comprennent réellement le plan de Dieu, l'agneau mort et ressuscité. Mais en réalité, merci Seigneur, c'était la plus grande et la plus belle victoire de tous les temps. Et dans les sphères célestes, Satan était dépouillé. Amen. Le péché est dépouillé, la mort est dépouillée, l'enfer, le péché, le séjour des morts. Jésus est descendu. Dès qu'il est mort, dès qu'il a expiré, le ciel s'est couvert, la terre a commencé à trembler. Jésus est descendu dans le Hadès, il a été prêché aux esprits en prison, révèlent les apôtres. Et à ce moment-là, des morts, quand Jésus est mort, il n'était même pas ressuscité lui-même, mais parce qu'il est descendu dans les profondeurs du Hadès, des hommes sont sortis de l'ombre tombe et il y a eu des résurrections. Puissance de l'œuvre de Jésus à la croix. Amen. Extraordinaire. Donc c'était réellement, et là ensuite, tant de fois, on le voit ensuite dans les épîtres, notamment dans l'Apocalypse, on le voit éclatant, rayonnant, resplendissant de gloire, de force, de lumière, d'éclat, il est tout puissant, il a dans ses mains, c'est pas un détail des textes, il a dans ses mains la clé de la mort et du séjour des morts, il a remporté la victoire éternelle de tous les temps sur la mort, le séjour des morts et l'enfer, sur le péché. Tout ce qui pouvait nous tenir liés, il l'a vaincu. Amen. Pourquoi on vit comme ça? Il n'y a pas de raison. Il a vaincu, il a triomphé. et je dois le saisir par la foi. Et comme cette œuvre est parfaite, j'ai rien à dire, j'ai rien à ajouter, j'ai rien à retrancher, il n'y a rien à modifier, je ne peux rien altérer, je ne peux pas la rationaliser, mon esprit cartésien ne saisit pas ces choses. Je les saisis par la foi, je me tiens, et comme dit Paul aux Romains, j'y demeure ferme, et l'Église ne doit jamais s'écarter de cette réalité, parce que ces réalités spirituelles, c'est ça la fraction du pain, ça nous ramène sans cesse à ces réalités spirituelles, c'est ça la vie de l'Église, c'est sa garantie de vie présente et sa garantie de vie à venir, autant ici-bas que dans l'éternité. On a vu aussi, évidemment, que nous nous remémorons aussi notre propre engagement envers le Seigneur, mais on a vu aussi que nous nous remémorons notre engagement les uns envers les autres. Quand nous prenons le pain, bien-aimé, nous ne nous souvenons pas seulement de Jésus, de son corps déchiré par le fouet de nos péchés, mais nous confessons aussi notre appartenance à ce corps miraculeux qu'est l'Église. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 11, 26, ça a été rappelé tout à l'heure. Toutes les fois que vous buvez cette coupe, toutes les fois que vous mangez ce pain, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Non, pardon, 1 Corinthiens 10, 17, c'est là que je voulais en venir, excusez-moi. 1 Corinthiens 10, 17, c'est la ligne du milieu. Puisqu'il y a un seul pain, nous formons un seul corps et nous participons tous à un même pain. Il y a un seul corps et différents membres. Il y a un seul pain et plusieurs morceaux. Le corps, le pain, les morceaux, les membres. Et ces morceaux de pain qui sont là nous rappellent que nous sommes membres de ce corps, nous sommes des membres à part entière et nous confessons notre engagement, notre appartenance envers ce corps. Et prendre la scène, mes bien-aimés, c'est pas rien. Pas seulement envers Jésus, c'est aussi les uns envers les autres. Nous confessons notre appartenance à ce corps miraculeux qu'est l'Église. Nous sommes membres les uns des autres. Et puis là, vraiment, comme ça a été rappelé tout à l'heure, oui, 1 Corinthiens 11, 26, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est déjà extraordinaire de vivre ces choses, de s'en rappeler, de les confesser au travers du pain et du fruit de la vigne. Mais ce n'est pas terminé. Dans la pensée de Jésus, ça va encore plus loin. Et on va lire ensemble dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, s'il vous plaît. Simplement pour se rappeler que dans la pensée de Jésus, comme dans la pensée des apôtres après lui, Matthieu chapitre 16, la croix n'est pas seulement pour Jésus. La croix est aussi pour moi, elle est aussi pour chacun de nous, par identification spirituelle dans un état d'esprit. Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon message ce matin, toujours avec la fraction du pain, pour aller plus loin, vivre dans l'esprit de la croix. Le texte, la référence s'affiche, vous pouvez prendre avec moi Matthieu 16, verset 21. Matthieu chapitre 16, chapitre 16 et verset 21. Jésus vient de demander à ses disciples « Qui suis-je pour vous ?» Et comme les disciples ont reçu par révélation que Jésus est le Christ, parce qu'ils ont bien compris qui il est, parce qu'ils ont bien compris sa nature, seulement à partir de ce moment-là, et ce sera quand même pas simple, mais seulement à partir de cela, parce qu'ils ont bien compris qui il est, Jésus va commencer à leur révéler le but ultime de sa venue sur terre et que sa préoccupation fondamentale, c'est la croix. Donc il va commencer à leur parler de ses souffrances à venir. Dès lors, à partir du moment où ils ont bien compris, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas !» Ben oui, on comprend Pierre, on aurait certainement répondu pareil. Seigneur, toi tu es saint, tu es pur, tu es parfait. S'il y a bien quelqu'un qui ne mérite pas ça, c'est toi. Maudit, il connaît le texte de l'Ancien Testament, maudit est celui qui est pendu au bois. Seigneur, toi tu es le béni par excellence. Ça peut pas être, non, la croix ne peut pas être pour toi, Seigneur. Il y a des tas de gens qui sont faits pour la croix, mais certainement pas toi. Et on comprend la réaction des disciples et de Pierre à ce moment-là. C'est à Dieu ne plaise, Seigneur, ça ne peut pas t'arriver. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors, ce n'est pas terminé, l'entretien n'est pas fini. Alors, Jésus rajoute, alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'ils me suivent. Amen. » Je ne vous fais pas lire, mais je l'ai noté ici. Il y a un texte parallèle dans l'évangile de Luc, chapitre 9, les versets 22 et 23. Nous n'y prêtons pas forcément attention, bien-aimés, soit parce que nous n'en sommes pas conscients, soit parce que cette réalité ne nous plaît pas. Mais Jésus a été très clair sur ce point. Dès le départ, à peine avait-il parlé de la croix pour lui, que tout de suite il commence à parler de la croix pour ses disciples, c'est-à-dire pour ceux qui le suivent. C'est la définition d'un disciple. Et l'évangile de Luc précise chaque jour. Donc vous voyez que dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 21, Jésus parle de la croix pour lui. Verset 24, il parle, c'est une erreur, pardon, 24, il parle de la croix pour moi, pour le disciple. Dans l'évangile de Luc, même chose. Au verset 22, il parle de la croix pour lui. Tout de suite après, verset 23, il parle de la croix pour moi, pour vous. C'est une réalité spirituelle que nous sommes appelés à réaliser. Il faut en prendre conscience, mais ensuite à accepter. La croix, vivre dans l'esprit de la croix. La croix, c'est bien plus que de se rappeler ce que Jésus a fait, que je m'engage envers lui et envers l'Église, etc., et sa mort jusqu'à ce qu'il vienne, c'est déjà extraordinaire. Mais persévérer dans la fraction du pain, ce n'est pas seulement une facette de la croix. Je ne peux pas disséquer la croix. Nous ne pouvons pas prendre de la croix que ce qui nous arrange, ce qui nous convient. La croix, c'est une œuvre totale, c'est une œuvre globale. Et Jésus est très clair, il dit, mais je paraphrase, mais mes chers disciples, la croix ne sera pas seulement pour moi. Alors physiquement, dans l'horreur, dans l'infamie, etc. Oui, bien sûr, je ne vous demande pas à vous, là, maintenant, aujourd'hui, 2026, personne ne va vous demander de finir crucifié cette semaine. Ce n'est pas ça. Il est question d'identification spirituelle. La croix a une dimension, elle a une portée pratique. Elle forge ma pensée intérieure. La croix forge mon état d'esprit. Elle forge ma mentalité. Je suis amené à vivre avec l'état d'esprit de la croix. La croix n'est pas seulement le pardon de mes péchés, le point de départ du salut, la délivrance. Amen, ça l'est, c'est très bien. Mais c'est aussi le point de départ d'une vie nouvelle, avec un nouvel état d'esprit, une nouvelle mentalité. Cet état d'esprit, c'est l'état d'esprit sacrificiel, c'est-à-dire du don de soi. L'amour de Jésus n'a pas donné seulement. L'amour de Jésus s'est donné lui-même tout entier. Et l'esprit de la croix m'amène dans cette... Oui, c'est un état d'esprit, de cet amour qui n'est pas l'amour qui donne, l'amour don de soi. J'ai cet état d'esprit de m'offrir moi-même, de me donner tout entier. C'est un nouvel état d'esprit, c'est une nouvelle mentalité. La grâce, le pardon, l'amour don de soi, mais aussi, ah, ça nous fait beaucoup moins plaisir, mais Jésus a été très clair. Et c'est un ensemble. Il n'a pas mis grand 1, grand 2, 3 et 4 optionnels si ça vous arrange ou pas. Jésus a été très clair. La croix n'est pas seulement pour moi, mais par identification spirituelle, elle est aussi pour vous. d'un point de vue pratique, c'est le renoncement à soi, la mort à soi-même, le renoncement à soi qui est résumé dans ce « non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne ». Et c'est là que la croix commence à prendre une dimension plus grande, plus profonde, pratique dans ma vie. Et c'est là que le Seigneur m'attend parce qu'il veut me communiquer une puissance de vie. Il veut me communiquer de grandes victoires. Il veut me communiquer de belles bénédictions. Et je voudrais me développer dans cette vie. Je voudrais vivre toutes ces victoires, toutes ces bénédictions, tout ce qui découle de la croix. Comme dit Paul, je voudrais connaître la puissance de sa résurrection. Je veux connaître Christ, Philippiens 3:10. Je veux connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Mais il faudra que je devienne conforme à lui en sa mort. Et comment est-ce qu'on fait ça, bien-aimé? Comment est-ce qu'on arrive à ces choses-là? On arrive à cette dimension de vie? Comment on arrive à cette dimension de grâce, de pardon, de don de soi? Comment on peut arriver à vivre les victoires de la croix? Beaucoup de bien-aimés, je parle de bien-aimés vraiment dans les églises en général, sont sauvés par Jésus. Leur nom est inscrit dans le livre de vie. Ils sont pardonnés de leurs péchés. Ils ont connu une certaine facette de la croix, mais ne vivent pas toutes les victoires de la croix en eux, dans leur vie, dans les différents domaines pratiques. Ne vivent pas les bénédictions de la croix. Ne vivent pas cette puissance de vie de la croix. Bien-aimés, il n'y a rien de plus puissant que la croix. La croix est une puissance de vie. Il verra, dit Ésaïe 53, il verra, emporté par l'angoisse et le châtiment, mon serviteur juste verra une postérité. Il y a une puissance de vie qui jaillit de la croix. Il n'y a rien de plus puissant que la croix. Amen. Mais la croix, avant d'être puissance de vie, la croix c'est aussi la mort. Jésus est bel et bien mort sur la croix, hein. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait obstacle? Ben, tout l'enseignement du Nouveau Testament est clair. Bien sûr qu'il n'y a rien de plus puissant que la croix. Il n'y a pas de plus grande bénédiction et de victoire que celle qui découle de la croix. Rien n'est plus puissant, je vous ai mis ici en haut, que la vie de Dieu, l'Esprit de Dieu en nous. Et Paul le sait, il en est conscient. Je veux connaître la puissance de la résurrection parce que le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est ce même esprit qui vit en moi et qui vit en vous. Amen. Esprit de capacité, esprit de résurrection, esprit de victoire, esprit de possibilité. Il n'y a plus aucune limite. Où est le problème? Ah, le problème, c'est que si l'Esprit de Dieu a un potentiel de vie extraordinaire, la chair est un potentiel de destruction extraordinaire. Ce que la Bible appelle concrètement la chair, ce n'est pas nécessairement la peau qui recouvre mes os, hein. Ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas forcément du physique, du corporel. Vous trouvez dans les Écritures la chair, l'ancienne nature, le vieil homme, etc., la nature charnelle. Il y a différentes appellations pour désigner simplement mon ancienne nature, mon ego, mon moi profond qui a été corrompu, qui avait été corrompu par le péché. Mon ego avec ses ambitions, mon ego avec ses prétentions, mon ego avec sa volonté, mon ego avec son incapacité d'aimer comme Jésus aime, son incapacité d'être patient comme il est patient, mon ego avec son incapacité de me taire, il faut que peut-être plus fort que moi, avec son incapacité de pardonner, avec son incapacité, la chair fait obstacle. La chair, la nature charnelle, elle met toutes sortes de barrages et de limites, elle empêche la vie de Dieu de jaillir. Il faut dégager l'obstacle. L'enseignement du Nouveau Testament est très clair, Jésus est très clair. Et c'est là que la croix va commencer à faire une œuvre en moi, si j'en suis conscient et si je l'accepte. Une œuvre, oui, je dois apprendre à renoncer, je dois apprendre à soumettre ma volonté. Ta volonté charnelle n'a pas envie de clôturer ce dossier. Ta volonté charnelle crie vengeance. Ta volonté charnelle crie justice. Ta volonté crie « à Dieu ne plaise, ça ne m'arrivera pas ». Mais si, ça va t'arriver et ça t'est arrivé. Et c'est là que dans des circonstances pratiques, le Seigneur m'amène, selon comment je vais réagir, soit à vivre par l'esprit, à accepter cette mort intérieure, soit à continuer à vivre par la chair. Mais l'obstacle, bien-aimé, l'enseignement néo-testamentaire est clair. L'obstacle, ce n'est pas les autres. L'obstacle, ce ne sont pas les circonstances. L'obstacle, c'est le moi. C'est mon ego, c'est ma nature charnelle, mon ancienne nature. Et c'est là que la croix va apporter quelque chose de puissant en moi, si je le réalise, si j'en suis conscient, si je le veux bien, parce qu'elle va m'entraîner dans la mort à moi-même, pas la mort de moi. Le Seigneur ne me demande pas d'être crucifié cette semaine. Le Seigneur va me demander de le suivre dans cette identification spirituelle, concrètement par du renoncement. C'est un lieu de mort. Alors oui, la croix, c'est la puissance de vie de Dieu par excellence, mais avant d'être puissance de vie, avant que tu voyes vraiment des ressources extraordinaires jaillir de ton cœur, que tu découvres des bénédictions, des victoires nouvelles, une vigueur, une force intérieure, des victoires nouvelles, et que tu découvres ce « je peux tout par celui qui me fortifie », que plus rien ne puisse te terrasser, avant que tu découvres ça, il y a d'abord cette mort à soi, parce que qu'est-ce qui fait obstacle ? C'est la nature charnelle, l'ego, le moi, le vieil homme, l'ancienne nature. Ce sont tous les dérèglements, en définitive. Vous savez, quand on pense la chair, on pense toujours au péché un peu évident, grossier du corps, avec ses vices, ses pulsions, ses addictions, et les alcooliques, et les fumeurs, et les machins, et les pornographes, et je sais pas quoi. On pense toujours à des choses énormes comme ça, avec des choses charnelles, enfin charnelles au sens physique, le corps. Mais il faut bien comprendre, bien aimé, que la chair dans la pensée biblique, c'est pas juste le corps, ce sont aussi tous les dérèglements de l'âme. C'est pas seulement le corps avec ses addictions et son impudicité, ce sont aussi les dérèglements de l'âme, c'est le moi. Le moi, c'est mon orgueil. Ah ouais, je suis désolé, vous avez un pasteur qui vous avoue humblement qu'il a encore une part d'ego et que je suis sur un chemin de croix avec mon Seigneur et que j'apprends à renoncer. Il y a 8 milliards ou un peu moins, je ne sais pas. Il y a 8 milliards d'êtres humains sur cette planète. Il n'y en a pas un qui puisse dire « Ah, moi, je ne suis pas orgueilleux. Je suis super humble. » Ça n'existe pas. Le péché a affecté l'humanité et ce qui est venu dans le cœur de l'homme, la première chose qui l'a amené à cette rébellion, c'est ce moi, c'est cet ego malsain, corrompu par le péché, cette volonté qui a corrompu le plan de Dieu et qui s'est dressé, la rébellion, il s'est dressé contre l'ego divin. Dieu s'appelle Ego Emi. Si vous ne croyez pas, dit Jésus, que moi, Ego Emi, la lumière, le pain, le cep, Ego Emi, je suis Dieu le cep, Dieu le pain, Dieu la résurrection, Dieu la vie, Ego Emi en grec, vous mourrez dans vos péchés. Pourquoi ? Parce qu'il y a à l'intérieur de moi, il y a un ego illégitime. L'ego de Dieu, lui, c'est l'ego avec un E majuscule, E-G-O, légitime, divin, éternel, mais est né à cause de la contamination du péché, un ego injuste, un ego illégitime dans chaque cœur. Alors je suis passé par la croix, j'ai découvert le pardon de mes péchés, le salut, la grâce, la vie nouvelle, je commence, merci Seigneur, et selon les années c'est plus ou moins dur, et puis avec le temps je finis quand même par me demander comment ça se fait qu'avec ces années j'ai pas plus de victoire, pas plus de progrès, pas plus de bénédiction, pourquoi est-ce que je peux être pris encore souvent dans les mêmes limites, les mêmes faiblesses, les mêmes traits de caractère, les mêmes défauts, les mêmes failles, les mêmes faiblesses, les mêmes... Ah, pourquoi je tourne en rond ? Pourquoi j'avance pas plus ? Mais Jésus a été clair dès le début. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, alors la croix va me coûter, bien sûr, mais ce qu'elle va me coûter n'est rien comparé à la puissance de vie qu'elle va libérer derrière. Et ce sont là, avec l'ego, tous les dérèglements de l'âme dont je vous parlais. Mon âme, elle a ses prétentions, elle a ses ambitions, sa suffisance, elle a sa volonté propre. L'âme a des mauvaises pensées, les pensées de l'âme, les mauvaises pensées, les mauvais désirs, les mauvais sentiments, la frustration. C'est mon ego, pourquoi je suis frustré ? Pourquoi je suis susceptible ? Parce que c'est mon ego. La colère, la jalousie, et puis cette âme, cette psyché qui peut être si, si belle, mais si pénible, pardon. Avec ses, elle a des envolées extraordinaires. Elle a ses hauts, elle a ses bas. Elle a des envolées extraordinaires. Enfin, extraordinaires. Mon âme a des envolées prétentieuses. Non, non, je sais. Je vais y arriver. Je suis capable. Je vais y prendre. Je sais. Merci. Je sais. Et puis, après avoir déchanté avec ses envolées prétentieuses, mon âme, elle fait quoi ? Eh bien, elle dégringole. Et viennent les phobies, les inquiétudes, les angoisses, les dépressions. Parce que aussi haut sommes-nous montés, aussi bas devrons-nous descendre. C'est ça l'irrégularité de l'âme. C'est l'ego, la chair, le dérèglement de l'âme et du corps qui maintient, qui te maintient peut-être ce matin dans la faiblesse, dans l'échec, c'est ce qui bloque, c'est ce qui fait obstacle. La nature charnelle, mon ancienne nature bien-aimée, n'est destinée dans la pensée de Jésus et des apôtres. Mon ancienne nature, mon ancien moi, n'est destinée qu'à une seule chose, mourir. Ne produira jamais rien de bon. Le moi, même avec sa bonne volonté, n'accomplit pas l'œuvre de Dieu, ne fait pas une œuvre de sanctification. Ne saisis pas la vie de Dieu, ne saisis pas les victoires. Le moi est destiné à une seule chose, mourir. Il n'y a pas d'autre plan, il n'y a pas d'autre schéma. L'apôtre Paul, tout de suite, enseigne ça sur plusieurs de ses épîtres. Ayant compris ces choses, là je ne l'ai pas mis, je vous ai cité Philippiens 3.10. Je veux connaître Christ, je veux connaître la puissance de sa résurrection. Oui, mais il faut que je sois aussi dans la conformité à sa mort. Galates 2.20. L'apôtre Paul, quand il parle, il est bien vivant. Non, non, il n'a pas eu d'épisode de crucifixion au sens physique ou littéral du terme. Il en a vu des vertes et des pas mûres, mais on ne l'a pas crucifié quand il écrit ça. Et il dit bien, Galates 2.20, « J'ai été crucifié avec Christ. » Et si aujourd'hui je vis dans la chair, c'est-à-dire cette fois-ci dans ce corps, si je vis dans ce corps, ce n'est pas moi qui vis. C'est moi que vous voyez, mais ce n'est pas moi qui vis. À l'intérieur, c'est Christ. C'est Christ qui vit. Il a fallu enlever l'obstacle. Il a fallu être crucifié avec Christ. C'est comme si Paul disait, oui, j'ai accepté de mourir à moi-même. J'ai renoncé, moi aussi, j'ai appris à me taire. J'ai appris à renoncer. J'ai appris à ne pas me faire justice. J'ai appris dans différents domaines pratiques. Relisez le parcours de Paul. Qu'est-ce qu'il n'a pas subi pour le nom de Jésus ? J'ai été crucifié avec Christ. Mais aujourd'hui, si c'est je vis dans ce corps, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai accepté de mourir à moi-même. C'est comme s'il disait ça, j'ai accepté de mourir à moi-même pour mieux vivre sa vie. Est-ce que vous voulez vivre la vie de Dieu dans vos cœurs ? Est-ce que vous voulez une dimension de vie plus grande, plus puissante ? C'est possible, mais il n'y a qu'un seul chemin pour cela. C'est le chemin de la croix. Ici, en Épître aux Romains, j'ai mis aussi dans 2 Timothée 2.11, là je vous ai mis aussi Romains 6, notre vieil homme, vous voyez ce sont des expressions différentes, mais qui désignent toute la même chose en vérité. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, car celui qui est mort est libre du péché. Et là, il ne parle pas des gens qui sont morts physiquement et qui sont au ciel, ce serait un peu stupide. Hein. C'est sûr que quand je serai mort ici-bas, j'aurai plus de problème avec la tentation, l'épreuve, le péché, le moi. Non, non, il est en train de parler par identification spirituelle, sinon c'est stupide. Celui qui est mort à lui-même, j'ai été crucifié avec Christ, ma vieille nature a été crucifiée. Et cette vieille nature qui a été crucifiée me permet d'être libre. Je sais, c'est humain, on est tous comme ça. On a besoin d'être délivré du caractère de notre mari. On a besoin d'être délivré. T'as dit amen à ma... Là, tu vas avoir une semaine de sanctification cette semaine, ta femme, elle t'attend. Hein. Là, il y a des amen qui nous engagent, attention. Hein. On voudrait être libéré de telle chose, de telle chose, de telle personne, du caractère d'un tel. Je voudrais être libéré de ce collègue, je voudrais être libéré de tellement de choses. Mais le Seigneur dit, celui qui est mort à lui-même, celui qui est mort est libre. Je sais, c'est dur comme message. Mais plutôt que de faire mourir des tas de gens, ben faites-en mourir une, ben vous-même. Parce que vous savez ce qui est super avec le Seigneur. On peut quand même en sourire. On a compris, on est tous comme ça. Ce qui est fantastique dans la pensée de Dieu, c'est que c'est beaucoup plus efficace plutôt que de faire mourir des tas de gens et de passer son temps dans des querelles, dans des disputes, dans de l'accusation, dans du faire-valoir, dans de l'auto-justification, dans des tas de choses. Quand j'ai compris que le secret de la vie puissante de Dieu se trouve dans la mort à soi, celui qui est mort est libre. Vous savez ce qui est bien avec un mort ? C'est que quand on le pique, ben il ne réagit pas. Pourquoi je réagis ? Parce que je ne suis pas mort à moi-même. Mais un mort, vous le piquez, ben il ne réagit pas. Un mort, il ne se fait jamais de soucis. Un mort ne s'inquiète pas. Un mort ne crie pas vengeance de son passé. Un mort ne cherche pas à se justifier. Un mort ne perd pas de temps dans des combats charnels, stériles. Un mort n'a rien à faire de tout ça. Il est mort à toutes ces choses, au péché, au monde, à la loi, à l'injustice, au conflit. Je suis mort à tout ça. Paul dit, je suis mort au monde. Le monde est mort pour moi. Mort à tout cela. Et je suis vivant de Dieu, je suis vivant pour Dieu. Ici, même chose, 2 Timothée 2,11, je ne vous fais pas chercher. Cette parole, j'aime beaucoup ce verset, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, mais là, il parle à des vivants. Hein. Si nous sommes morts, c'est spirituel, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Nous vivrons de sa vie, nous vivrons sa dimension. Oui, bien-aimés, on peut être sauvé par Jésus. On peut avoir compris différentes facettes de la croix qui sont belles. Mais malheureusement, ne pas vivre cette réalité spirituelle supplémentaire, ne pas être dans l'état d'esprit de ce renoncement à soi. Et c'est de là, malheureusement, que viennent les blocages, que la vie ne se libère pas. Le Seigneur a démontré la même réalité avec une autre image. Je ne vous fais pas chercher, pour ceux qui notent, vous lirez Jean chapitre 12, autour des versets 20 et quelques, pour être précis, verset 24, mais dans le contexte, c'est très intéressant. Des Grecs ont sollicité les disciples et ils voudraient voir la gloire de Jésus. Ils veulent voir Jésus dans sa puissance, dans ses œuvres, dans sa gloire. Et puis, les disciples viennent voir Jésus, ils disent « Maître, il y a ici quelques Grecs qui voudraient te voir ». Et là, Jésus répond quelque chose de totalement bizarre humainement parlant. Maître, il y a des hommes ici, ils aimeraient te voir. C'est-à-dire qu'ils veulent voir des œuvres, ils veulent voir de la puissance. Et Jésus leur répond, en vérité, je vous le dis. Si le grain de blé, Jean 12, 24, si le grain de blé qui est tombé en terre refuse littéralement, refuse de mourir, il restera seul. Il restera monos. Pas seul au sens où j'aurais pu de gens autour de moi. Monos, c'est-à-dire littéralement sans secours, sans aide, sans ressources. Qu'est-ce que vous voulez faire pour lui ? Pourquoi ? C'est quoi cette histoire de grain de blé ? Le Seigneur se sert de la nature. Parce que des tas de chrétiens ont été effectivement, merci Seigneur, semés dans la terre du royaume. Et puisqu'ils sont dans la terre du royaume, comment se fait-il qu'il n'y a pas cette explosion de vie du royaume en eux ? Est-ce que c'est la faute des autres grains ? Non. Est-ce que c'est la faute du terrain qui n'est pas bon ? C'est la terre du royaume de Dieu et de sa parole et de son esprit. Comment se fait-il qu'il n'y a pas cette explosion de vie ? Jésus dit, le grain de blé refuse de mourir. Et là, le Seigneur fait allusion à un processus extraordinaire parce que dans le grain, il y a le potentiel de faire un arbre. Mais il ne se passe rien. Ce grain reste stérile, monos, sans ressources, sans secours, sans solution, même si on lui explique tout en long, en large et en travers. Pourquoi ça ? Pourquoi la vie n'explose pas ? Parce qu'il y a autour du grain une toute petite enveloppe dans la nature qui s'appelle la balle, B-A-L-E. Deux L, c'est pour jouer. Et le grain a une balle avec un seul L, B-A-L-E. Et ce grain, Jésus dit, il faut que le grain meure, c'est-à-dire il faut que la balle se brise. Et cette balle, c'est quoi dans l'image ? Eh bien, c'est simplement le moi. C'est une autre image, mais c'est de nouveau. Moi, je ne me suis pas brisé, je n'ai pas renoncé, je ne suis pas mort à moi-même. Donc, il y a là, dans mon être intérieur, mon bien-aimé, dans ton être intérieur, un potentiel de vie que l'on voit de la première à la dernière page de la parole, surtout du Nouveau Testament, par la grâce et par la venue du Saint-Esprit. Mais on voit, surtout dans le Nouveau Testament, cette explosion de vie totalement possible et accessible. Et puis à côté de ça, comment se fait-il que je n'en vive pas plus ? Mais c'est très simple. Le grain de blé n'est pas mort, c'est-à-dire la balle ne s'est pas brisée. Donc le potentiel de vie ne peut pas jaillir. Il y a ici, bien aimé, un seul chemin, un seul secret spirituel, parce que malheureusement, soit nous n'en sommes pas conscients, nous n'avons pas toujours bien compris cette facette, cette réalité de la croix, mais persévérer dans la fraction du pain, c'est pas un rituel évangélique. Je me place vraiment dans la réalité spirituelle de la croix pour Jésus. Mais quand je prends le pain, bien-aimé, je réfléchis aussi à mon engagement envers lui et aussi à ce que, est-ce que je vraiment, je me suis chargé de la croix ? Est-ce que je réfléchis à cette réalité spirituelle de la croix ? Pour moi, et parfois on n'en a pas été conscient ou on n'a juste pas accepté, on a dit non, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne m'arrivera pas. Et le Seigneur, il fait quand même que ça arrive. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en réalité, crucifié, on l'est tous. Il suffit d'une parole pour vous crucifier. Une parole méchante, une parole blessante, une parole injuste. Et là, vous ressentez quelque chose à l'intérieur. Ah, c'est comme si des épines s'enfonçaient dans votre front, que votre dos est labouré par des lacérations verbales, infâmes, accusatrices, médisantes, injustes. Et vous sentez, c'est comme des clous et des, qui transpercent non pas vos mains et vos pieds, mais vous sentez des clous qui transpercent votre être intérieur. Bien-aimé, une parole, votre fils, votre fille, votre mari, vos collègues, une parole. Et vous êtes plaqué sur la croix. La vraie question, c'est pas est-ce que vous allez être crucifié. Vous l'êtes. À ce moment-là, la vraie question, c'est est-ce que vous allez mourir à vous-même ou est-ce que vous allez descendre de la croix ? Nous parlons de réalité pratique. Crucifié, vous l'êtes en une seconde par une parole. Et Jésus a été tenté de descendre de la croix. Là, nous avons lu, Pierre a essayé, dans son sentimentalisme bien gentil, il a dit au Seigneur, non, ça ne peut pas t'arriver, pas toi. Vous aurez toujours des gens qui vous diront, mais non, mon pauvre, c'est injuste. Mais on est d'accord, c'est injuste. Bien sûr que c'est injuste ce qui t'arrive. On n'a pas dit le contraire. Mais tu sais, mais non, mais ça ne t'arrive. Et Dieu, malgré la voix de nos amis, fait en sorte que ça arrive quand même et vous êtes plaqués sur la croix. Et c'est ce qui s'est passé pour Jésus. Et ensuite, quand Jésus était sur la croix, trois fois le Seigneur a été tenté de descendre de la croix. Lorsque la foule l'a invectivé et l'a provoqué pour qu'il descende. Les chefs religieux l'ont invectivé et l'ont provoqué pour qu'il descende avec les soldats. Et aussi le brigand à côté, celui qui ne le reconnaissait pas, l'a invectivé et l'a provoqué pour qu'il descende de la croix. Et Jésus a dit non, je ne descendrai pas de la croix. Parce qu'en Gethsémané, il était déjà mort à l'intérieur. Il était mort à lui-même. Et il avait dit, non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Voyez, bien-aimé, si Jésus n'avait pas été jusqu'au bout à la croix, s'il n'était pas mort sur la croix, s'il n'avait pas refusé, il a refusé de descendre, nous ne serions pas là aujourd'hui. Je sais que c'est difficile à imaginer, mais bien aimé, il y a, lorsque nous acceptons cette dimension, lorsque nous comprenons que la fraction du pain nous ramène aussi à la croix pour nous-mêmes, en application, en identification spirituelle, il y a nécessairement une bénédiction qui arrive derrière. La puissance de la résurrection vient dans ton cœur, dans ta vie, dans ta famille, dans tes circonstances. Les victoires, les bénédictions de la croix veulent et peuvent couler au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Mais la vraie question, c'est: est-ce que tu vas d'abord accepter de renoncer? Est-ce que tu vas mourir? Et là, le Seigneur te dit: tu connaîtras la puissance de ma résurrection. Persévérer, je termine juste avec cela, parce que ça va aussi dans la ligne du don spirituel de tout à l'heure. Un disciple qui accepte de mourir à lui-même, écoutez-moi bien, un disciple qui accepte de renoncer, de mourir à lui-même, ne mourra plus jamais dans le péché. Il ne mourra pas dans les circonstances. Il ne mourra pas sous les lapidations verbales. Il ne mourra pas dans les injustices. Il ne meurt pas dans ses blessures. Il ne meurt pas dans son passé. Un disciple qui accepte de mourir à lui-même ne mourra pas dans toutes les circonstances de la vie. Il est plus fort que tout. Il devient invincible par l'esprit de résurrection. Et puis un disciple aussi qui a accepté de mourir à lui-même ne fait plus mourir les autres. Un disciple qui a accepté de mourir à lui-même ne fera plus jamais mourir les autres. Mais il y a un cri qui jaillit à l'intérieur de lui, parce qu'il a l'esprit de la croix. Père, pardonne-lui. Il ne sait pas ce qu'il fait. Père, pardonne-la. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Et viennent ensuite une puissance de vie, une liberté, une victoire. Voyez, bien-aimés, persévérer dans la fraction du pain nous entraîne dans des réalités pratiques, dans un état d'esprit au quotidien. Et ce n'est pas seulement se souvenir de la croix pour Jésus, mais c'est aussi une identification à Christ. Chaque jour, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. On se recueille, s'il vous plaît. Merci pour votre patience.